Il est 15h04 et on part à la fête de l'humanité pour retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour à l'équipe de là-bas si j'y suis. Un grand merci pour cette émission et surtout pour l'équipe de Sevenol qui donne du baume au cœur et qui, contrairement à l'ambiance et l'air du temps, prouve que quand les gens sont unis et sont solidaires, et ben du coup ça a des résultats et des résultats plutôt positifs. Un grand merci, je suis très émue, c'est pour ça que je bafouille. Bonne journée, au revoir.
Voilà, j'appelle concernant l'émission d'aujourd'hui sur l'usine de champignons. Donc les propriétaires de ces gens-là s'appellent Champignandou, Royal Champignon, France Champignon. Ils ont un nombre de noms incroyable. Il faut savoir que ça fait au moins 10 ans qu'ils fonctionnent toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'ils cherchent à fermer des unités. Ça a commencé il y a une dizaine d'années vers Saumur, là où j'habitais avant. Et on avait fait des recherches sur leur structure et on s'était aperçu que les champignons qui concurrençaient, donc c'était du champignon blanc à Saumur, champignon de Paris, les champignons qui concurrençaient de la production locale, des champignons qui naissent de Pologne, et au miracle, eh ben, les champignons en Pologne étaient produits par des usines qui leur appartenaient. Donc tout s'explique. Et leur technique est très simple, c'est qu'ils cherchent à fermer des petites unités et de cette manière, ils isolent les gens. C'est-à-dire que ceux qui avaient fait grève à Saumur il y a 10 ans n'avaient été soutenus par personne et ceux qui font grève maintenant dans les Cévennes sont soutenus par personne parce que chacun se planque et c'est toujours la même manière de faire. Voilà. Donc tant mieux pour ceux qui ont réussi à choper les 16 000 euros et puis continuons la lutte, quoi. Salut.
Pour financer le RSA, il y a une manne qui vient de voir le jour à Lourdes. Il a été installé une borne pour accéder à la grotte, une sorte de péage qui fera peut-être institution. 5 euros. Pour assister à la messe du pape, 15 euros. Je vous laisse à vos prières. Allez, je vous remercie pour vos émissions. Au revoir à tous et bonne route.
Bonjour, ici c'est Robert, le secrétaire de l'association Les Amis du Terrorisme de Gradignan, en Gironde. On est un petit asso, une vingtaine d'adhérents. Bah. Bon, on se réunit une fois par semaine, sauf pendant les congés scolaires. La mairie nous a attribué un petit local qu'on partage avec le club des chiffres et des lettres. Il y en a d'ailleurs parmi nous qui fréquentent les deux clubs. Bon, pour la plupart, on est des retraités. On est des amateurs, quoi. Pour nous, le terrorisme, c'est plutôt une activité de loisir, vous voyez. On bricole, on fabrique des cocktails Molotov, des petits explosifs avec commandes à distance. Ça, c'est le prof de techno du collège qui nous a appris à faire marcher les commandes à distance. Bon, et de temps en temps, on se fait péter un petit explosif comme ça pour y voler, quoi. Bah, ça nous occupe, tiens. Et alors là, je vous appelle parce que c'est le 11 septembre. Alors évidemment, pour nous, les amis du terrorisme, c'est une grande date, quoi. Alors ce soir, on fait une petite fête aux ruines de kayak au bord de l'eau Bourde. Apéro, brochette, puis reconstitution du 11 septembre. Alors c'est bien parce que une des adhérentes, elle est élite. Alors depuis la rentrée, elle fait bosser les gosses de sa classe de CM1 et CM2 sur la reconstitution des ruines de Tovers. Bon, j'ai pas l'accent, mais vous savez, les Turquies, ils font dans la New York. Alors les mômes, depuis 10 jours, ils ont bossé à reproduire les tours en papier canson. C'est bien parce que c'est assez rigide, ça tient debout. Les drôles, on les appelle les petits caïds, en référence à Al-Qaïda, bien sûr. Et puis alors, c'est Claude, le président de l'asso, qui a eu l'idée qu'on travaille avec le club de modélisme, qui nous a fourni deux avions modèles réduits, téléguidés, et qu'on va s'amuser à envoyer sur les tours en papier. Voilà. On passe une bonne soirée, quoi. Tranquille, convivial. C'est dommage, il fait pas très beau. S'il pleut, on repartera samedi, mais c'est pas pareil, quoi. C'est mieux de le faire le jour anniversaire. Allez.
Merci Claude. Alors si vous saviez, cher Claude, vous êtes applaudi pendant tout le temps de ce message. Eh bien, le public vous a rigolé tout le long. Et on part pourquoi ? Parce qu'on est en direct depuis la fête de l'humanité qui commence ce soir. Qui commence ce soir ici au parc de la Courneuve à 19h et qui va durer tout ce week-end jusqu'à dimanche. Alors on est entouré d'amis de la Basse, j'y suis, d'un certain nombre d'invités. On a Charles Sylvestre, des amis de l'humanité. on a les ouvrières d'Arena, Arena les maillots de bain, et vous pouvez les applaudir. Elle nous amène des bonnes nouvelles, elle nous encourage, elles vont nous montrer qu'on ne perd pas toujours. Il y aura des gens qui sont en lutte, là ils n'ont pas encore gagné, c'est les gens de chez Renault. On aura aussi des salariés sans papier, on avait fait des reportages sur ce sujet, on va savoir où ils en sont aujourd'hui. On aura les jeunes du forum social des quartiers populaires qui préparent leur forum pour le début octobre. On aura le représentant de l'Union des Juifs français pour la paix. Et puis, on parlera aussi des rapprochements entre des villes françaises et des camps de réfugiés palestiniens avec Fernand Tuil et des représentants palestiniens. Alors voilà, c'est quelques sujets. Il y a énormément de débats, on le sait, à la fête de l'humanité, énormément d'idées qui sont brassées au cours de ces trois jours. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Il y a aussi, comme toujours, la rentrée politique. Et puis, il y a aussi, évidemment, la musique. Et ce sera ce soir à 22h30, ce sera le concert de Tiken Jafakoli, qui commence à 22h30. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il faut attendre la fin du Ramadan pour commencer le concert. Il y aura Bachung au cours de ce week-end, il y aura Kali, Arnaud, Thomas Dutronc, Roger Hodgson de Supertramp, ça fera plaisir aux plus âgés. Et nous, on a notre orchestre à nous spécial de la basse, si j'y suis, c'est Marcel et son orchestre. Voilà, on est ensemble jusqu'à 16h, là-bas si j'y suis, en direct de la fête de l'humanité.
Bonjour Daniel, je t'appelle pour me demander à voix haute si le fait de protester contre le fichier Edwige ne va pas nous propulser sur son fichier sœur, Christina. Voilà. Salut.
Edwige, si ça continue comme ça, Mermet, je viens avec le rouleau à pâtisserie. Bon, sérieusement, c'est pour signaler que le repère du 14e arrondissement à Paris se tiendra dimanche 14 à 20h. Nous aurons un envoyé spécial de l'Ariège, Daniel Mauger, qui sans jet privé ni rien, viendra nous parler des infos de l'Ariège. C'est au Magique, 42 rue de Gergovie, dans le 14e, métro Plaisance, ligne 13, bus 62, arrêt hôpital Saint-Joseph. Voilà, merci à tous et à bientôt, à dimanche. Au revoir.
Oui, bonjour, c'est Jean-Christophe, chauffeur routier dans la Loire. Voilà, j'appelle parce que j'ai à voir sur internet une dépêche AFP qui m'a, on va dire, bien plu. Hein. Le petit Nicolas, il continue à faire des émules jusque dans les préfectures, où les préfets, notamment celui de l'Ardèche, a carrément refusé l'accès à un journaliste de France Bleu, tout simplement parce qu'il n'apprécie pas la façon dont France Bleu traite les informations relatives à l'action de l'État dans le gouvernement. Donc voilà, bah vous êtes prévenus, et puis toi surtout, Daniel, hein, il va falloir revoir un petit peu tes façons de faire et arrêter de critiquer le gouvernement. Sinon, bah tu vas peut-être finir par être mis sur une liste, hein, une liste noire de préférence, en disant que vu que tu critiques, voilà quoi, donc fais gaffe à toi. Et puis nous on est là si t'as besoin. Allez, salut.
Salut Daniel, salut les AMG, Julien de Lausanne. En Suisse, le gouvernement veut nous imposer naturellement le passeport biométrique, comme partout ailleurs, mais également la carte d'identité biométrique. Il n'y aura plus la possibilité d'avoir une carte d'identité non biométrique. Vous vous rendez compte que c'est vraiment abusif. Il y a toute une problématique avec les puces RFID, la possibilité de centraliser toutes les données dans une gigantesque base de données de la Confédération. Bref, pour s'opposer à ce projet liberticide, une possibilité, le référendum. Le délai, c'est jusqu'au 2 octobre, donc il faut aller très très vite maintenant. J'invite tous les AMG en Suisse à signer. Vous pouvez aller sur Internet et puis taper « référendum passeport biométrique », vous trouverez toutes les informations. Merci, à bientôt.
Bonjour, Marion de Nantes. Voilà, je tenais simplement à faire partager aux auditeurs un petit moment de vie agréable que je viens de passer. Donc, en tant que caissière, j'ai été amenée à témoigner dans une affaire de circulation de faux billets. Et donc, en bonne citoyenne, je rédige, je signe ma déposition. Et pendant que je signais, j'ai surpris mes interlocuteurs, donc des gendarmes, en cause dans l'affaire, en train de plaisanter et de rigoler par rapport aux gens du voyage qui étaient aussi en cause dans l'affaire, et de conclure que l'ensemble des camps de gens du voyage devraient être brûlés au napalm, qu'ils ne méritaient que ça. Donc voilà, sans vouloir créer de polémique, moi ça me retourne le bide. Donc bonne journée quand même. Au revoir.
C'est Daniel Mermez, c'est là-bas, j'y suis en direct de la fête de l'humanité avec toute la bande et avec Marcel et son orchestre qui va démarrer dans quelques secondes.
Tous les 5 ans, et même parfois avant, on a bon au carnaval de la magouille, au grand défilé des embrouilles, c'est tellement bidonnant que c'en est consternant. Le candidat de l'ordre moral, avec sa gueule, achèterait tous les mâles. Il nous parle sans rigoler, de vieilles vertus desséchées, travail, famille, patrie, ça va changer. Le père, la pudeur, va nous réformer.
Il nous dit dans son programme d'acier que les mâles doivent se retirer. Lui, il a quand même dérapé 3 ou 4 fois dans sa moitié.
Il est vrai que c'était pour engendrer des bons Français à l'âme bien trempée. Magouille blues, magouille, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille, magouille blues. Magouille blues, magouille blues. Les autres grands qui s'opposent viennent tous du même clan, et c'est d'autant plus marrant de les voir se casser les dents en s'envoyant dans le nez toute leur turpitude passée avant que l'un d'eux soit président. Avant qu'ils n'en prennent pour 5 ans, ces messieurs à l'image sociale essaient de nous remonter le moral. Ils iraient même, qui l'aurait cru, jusqu'à nous montrer leur cul. Magouille blues, magouille, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues. Magouille, magouille blues, magouille blues, magouille blues.
Ils n'ont jamais autant de cœur que quand faut beaucoup d'électeurs. Quand Jean-J sera passé, fini les serments, les baisers.
Fini les bonnes résolutions, on redeviendra tous des pauvres cons.
En attendant, ils voudraient nous faire croire à des arguments de bazar.
Français, Françaises, soyez réalistes, garde socialo-communiste.
C'est là que le plus grand danger pour le vieux pays traumatisé. Magouille blues, magouille, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille, magouille blues, magouille blues, magouille blues. Moi, pour vous dire la vérité, je suis plutôt pour le danger. La seule chose qui m'inquiète, c'est le mec qui se trouve à leur tête. Car plusieurs fois par le passé, il a sa veste retournée. Les seuls qui soient vraiment sympas, qui soient un peu comme vous et moi, je ne parle pas des royalistes, ni bien entendu des fascistes, c'est ceux qui auront au bout du compte 2 ou 3% des voix. Pourquoi ?
Il est 22 ou 3%, ça fait quand même pas mal de gens, pas mal de gens qui seront fichés, et qui un jour vont se retrouver dans un stade militaire regardé, où ils pourront toujours chanter.
Magouille blues, magouille, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille blues, magouille, magouille blues, magouille blues, magouille blues.
Marcel et son orchestre, merci. On les retrouvera tout à l'heure, la bande de Marcel et son orchestre. Charles Sylvestre. Charles Sylvestre, on va commencer avec vous. Vous êtes journaliste et vous êtes animateur, secrétaire de la Société des Amis de l'Humanité. C'est un stand important chaque année dans la fête de l'humanité, à la fête de l'humanité. Et vous me disiez tout à l'heure, Charles, que c'était votre 40e fête de l'Huma. Donc
à peu près.
Voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur ce stand des Amis de l'Humanité année?
Je vais être un peu modeste parce que évidemment je vais tout de suite dire que le stand des Amis de l'Humanité c'est un petit morceau de la fête, mais bon, on a un peu le patriotisme du pavillon, comme dit Edmond Charlot qui préside les Amis de l'Humanité. Donc très très vite ce soir, il y a une soirée autour de Georges Segui qui s'appelle Vive mai 68. Segui, l'intérêt, c'est qu'il a été de la résistance, résistant à 16 ans, déporté à 17, et que il a été confronté à 68 comme secrétaire général de la CGT. Donc, c'est l'itinéraire de ce résistant très jeune, gamin, déporté, qui tout d'un coup tombe dans un grand mouvement social.
C'est quelle heure, ça?
C'est à 20h.
Voilà. Aujourd'hui?
Oui, ce soir, avec Stéphane Hessel, avec des lycéens qui seront là.
Avec Stéphane Hessel?
Oui, avec Stéphane Hessel, oui. Bon. Et Marcel Tria, qui va projeter un quart d'heure d'images de 68 qui seront commentées par Georges Segui.
Voilà, venez poser des questions quand même à Georges Segui sur 68, parce que... Il y a un contentieux quand même qui a duré longtemps.
Il s'en pose lui-même.
Ok, quoi d'autre, Charles?
Demain, de midi à 2, il y a une rencontre des sans-papiers qui ont fait grève ou qui sont en grève et tout.
Alors, ils sont là, il y en a un certain nombre qui sont là, dont on parlera avec eux tout à l'heure.
Voilà, oui. Avec le président de la Ligue des Droits de l'Homme, le président de Droits de Vent, Jean-Claude Amara, et deux responsables de la CGT, Francine Blanche et Raymond Chauveau. Ouais. Voilà ça, et puis... Dans l'après-midi, il y a Bernard Stiegler, le philosophe, qui va traiter de Marx 150 ans après, le capitalisme d'aujourd'hui, disons. Les deux auteurs de livres femmes qui sont tout à fait remarquables, à mon avis, c'est le livre de Virginie Linard sur son père Robert Linard, Le jour où mon père s'est tué.
Bon, et l'autre, un établi maoïste de 68.
Voilà, et l'autre qui s'appelle donc Martine Sonnet, sur son père qui est un forgeron de Billancourt, tout à fait anonyme. Donc c'est le croisement de ces deux trajectoires, un hyper politisé ultra-gauchiste maoïste, et puis au contraire un homme parmi d'autres, un ouvrier parmi d'autres. Donc on va confronter avec Elisabeth Rodinesco ces deux femmes, et le soir on est dans 68 à fond, samedi soir, c'est que chantiez-vous en 68, que chanteriez-vous en pensant 68. Il y a nos habitués, des amis fidèles et tout, de valeur, je crois. Bernard Lubat et sa compagnie, Marc Perron.
On connaît à la base, si j'y suis.
Et voilà. Et puis, il y a Alain Leprest.
Excellent.
Francesca Solville. Voilà. Thomas Pitiot. André Menviel, qui vient d'avoir la victoire du jazz vocal. Voilà. C'était une gloire, maintenant, Menviel, de la ancienne de la compagnie Lubat. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai cru comprendre que Leprest avait envie de chanter du Nougaro, le Paris-Mai. Paris-Mai, etc., accompagné par Lubat, qui était un grand ami de Nougaro, comme chacun sait, je pense. Voilà. Et le dimanche, pour finir très vite, il y a un débat sur l'humanité elle-même, où elle en est, et elle vient de traverser un été orageux, avec Patrick Yari, son directeur, Edmond Charleroux, et Jean-François Kahn. Et puis, alors, ce sera l'occasion d'ailleurs...
Il fait toujours un tabac, chaque fois qu'il est là, Jean-François Kahn.
Ben oui. Alors, il a des fluctuations politiques assez complexes.
Ah oui.
Voilà, faut suivre.
Extrême centre.
Mais question journalisme quand même, il a des heures de vol quand même, comme on dit, voilà. Et puis ce sera l'occasion d'ailleurs, Ernest Pignernest sera là, et lui ce qui est intéressant c'est que il nous a fait un poster, je trouve, disons les mots, magnifique, c'est un Jaurès qui surgit de la une de 1904 pour l'humanité. Et ça signifie, aujourd'hui, avec Jaurès, il faut défendre l'humanité d'aujourd'hui.
Voilà. C'est célébré par Nicolas Sarkozy, qui est un grand lecteur de Jaurès, comme chacun sait.
Il paraît, oui.
Ok, Charles Sylvestre vient de défendre sa paroisse, mais il n'y a pas que ça à Fête de l'Huma.
Et non, heureusement. Mais...
Bon, on va en parler tout le long de cette heure qu'on passe ensemble. Je voudrais tout de suite qu'on se tourne vers les dames d'Arena, parce que ça va nous mettre du baume au cœur. On aime bien répéter à la base, si j'y suis, qu'on ne perd pas toujours. Et là, vous nous montrez qu'on ne perd pas toujours. Vous êtes là toutes les trois. Michel Paludetto, c'est vous?
Oui, bonjour. Bonjour.
Bonjour, Christine Seize.
Oui, bonjour.
C'est vous. Et Véronique Ternois, c'est vous en face de moi. Vous êtes venu, on vous a invité. C'est là-bas, c'est J'y suis et France Inter qui vous a invité. Vous êtes venu spécialement de votre Libourne. C'est là que vous habitez, c'est là que vous vivez. Et on a absolument voulu vous avoir avec votre avocat, qui est Philippe Lejar. Pourquoi ? Parce que le 8 septembre, c'est une date importante, le tribunal de Bordeaux, c'est ça ? Le tribunal de Libourne a condamné Arena, votre entreprise qui, je le rappelle, fabrique des maillots de bain. Vous fabriquez des maillots de bain de compétition, vous allez nous préciser tout ça. Et le tribunal a condamné Arena pour licenciement abusif. C'est par les temps qui courent, c'est déjà pas mal. Et pour un total de 4,6 millions d'euros, Arena doit verser aux salariés qui ont été licenciés en 2007 4,6 millions d'euros pour 92 salariés qui vont se partager cette somme. Alors, on a trois femmes assez riches quand même en face de nous.
Non, pas encore.
Alors, qui nous raconte, laquelle de vous trois commence à nous raconter cette aventure ?
L'aventure depuis le début ?
Non, en gros, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, Arena, c'est des maillots de bain, hein ?
Oui.
C'est des maillots de bain de compétition. C'est vous qui aviez, habillé Laure Malodou, c'est ça ?
Oui.
Ok. Une entreprise qui marchait bien.
Oui. Tout à fait, oui.
Elle faisait du bénéfice.
Oui.
Elle faisait du bénéfice.
Mais bon, comme beaucoup d'entreprises maintenant en France, ben, ils délocalisent parce que pour un profit maximum à l'étranger, c'est tout, quoi.
Vous aviez
en résumé en ça.
C'est ça. Vous aviez vu venir ce coup de la délocalisation?
Oui. Oui, quand ils ont commencé à licencier notre ancien directeur, qui était là depuis une trentaine d'années comme nous, pour pouvoir faire ce qu'il voulait, entre guillemets, et on voyait bien qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas logiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui nous faisait perdre de l'argent, et alors que ça ne devait pas être, quoi.
D'accord. Combien d'ouvriers, combien de salariés en tout ?
180 vers la fin, où on était peut-être un peu moins, 161, on avait baissé, parce qu'au fur et à mesure.
Pardon ?
161 personnes.
161 qui se retrouvaient quand même sur le carreau, brusquement.
Ah oui, c'était ça.
Ah ben ça a fermé le site.
On nous a dit, ça ferme, point à la ligne. Ils n'ont pas voulu discuter de quoi que ce soit. Ils ont décidé de fermer l'usine.
Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes organisé ? Vous aviez un syndicat ?
Oui. Bon, on les a laissés un petit peu au départ, bon, discuter, etc. On n'allait pas se mettre à faire grève comme ça pour rien, voir s'il y avait une possibilité que ce soit.
Oui.
On pensait que c'était peut-être pas irrémédiable. Et puis après, quand on a vu l'avancée des choses, eh ben, on a commencé à faire des grèves, mais des grèves ponctuelles, quoi, des blocages logistiques notamment, pour pas laisser partir les pièces. Parce que d'une part, faire des grèves systématiques de tous les jours et le blocage de l'usine financièrement, ça aurait été beaucoup trop lourd pour les gens. Parce qu'il faut bien vivre, hein. Et donc, on bloquait les camions. Quand les camions arrivaient, on avait tout un système. Il y en a qui pistaient.
Racontez-nous, ça peut donner
Christine
des idées.
Christine sifflait pour
le chargement.
Et
on empêchait le chargement
moi,
des camions.
Moi, je sifflais, les copines. Christine avait son sifflet pour
dans l'usine et tout le monde se regroupait. On allait bloquer l'entrée pour que les camions ne rentrent pas.
On sortait parce que la logistique était un bâtiment à côté et voilà.
Voilà, ils pouvaient rentrer mais ils ne pouvaient pas charger.
Et on dormait à la logistique le soir. Alors on se relayait, une vingtaine, une quinzaine, ça dépendait. On mangeait, on dormait sur place pour éviter que la nuit vienne chercher.
Oui, c'est ça. C'est super. C'était vachement gay, c'est ça.
Formidable.
Mais que des femmes, parce que c'est.
Non, on avait quelques hommes. Il y en avait pas beaucoup, mais heureusement qu'ils étaient avec nous quand même.
Une majorité
parce qu'ils nous boostaient aussi.
C'était nos gardes du corps en plus, un petit peu.
Oui.
Alors vous dites que c'était gay, c'est-à-dire que vous avez fait quoi ? Vous faisiez à dîner. À manger, les
on a
fêtes,
mis à manger, on n'a jamais aussi bien mangé que.
Oui, d'ailleurs, on a pris
et autant, même le régime. Ouais. Bon.
Alors, c'était très sympa. D'ailleurs, on a appris à se connaître à ce moment-là. Voilà.
Et comme c'était, si vous voulez, c'était avant le local de la logistique, c'était une entreprise où ils faisaient des glaces. Et il y avait donc des douches encore, il y avait en haut, il y avait vraiment beaucoup de place, donc on amenait des matelas pneumatiques, etc. On avait tout ce qu'il fallait. En bas, il y avait la cuisine,
mais on dormait par terre, quand même,
puisque les gens y mangeaient.
Ah, vous avez dormi pendant combien de temps, ça ?
Ça a duré.
Le temps de la grève, je ne me souviens même plus.
Combien un plus
un
de
mois,
deux,
peut-être,
je
ne sais plus.
Un mois ? Un mois, oui.
Vous avez des solidarités dans la région ?
Oui.
On a eu un comité de soutien qui s'est créé dans notre ville.
Oui.
On va retrouver dans un instant Daniel Mermet en direct de la Fête de l'Humanité. Le temps de reconnecter la liaison. Nous vous demandons quelques instants de patience. Nantes sur France Inter. Dans un instant, nous allons retrouver Daniel Mermet en direct pour la Bâchée, si j'y suis, de la Fête de l'Humanité. Encore quelques instants de patience, puisqu'il y a une coupure électrique à la Courneuve. Nous essayons de retrouver Daniel Mermet dans un instant sur France Inter en direct de la Fête de l'Humanité.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit pays, j'aime beaucoup. Ah, aéroport CDG, comptoir CACV, direction mon petit pays adoré. Archipel magnifique dans l'océan Atlantique, le paradis sur terre situé au large de l'Afrique. Et la joie se lit sur les visages, grâce à Dieu, tout le monde applaudit au moment d'atterrissage. Les gens sont heureux à la vue splendide du paysage, tous pressés de retrouver la famille en ville ou au village. Oh yo yo yo, mais c'est dos con tu paso majan lugaya. Dès que j'arrive à Santa Catarina, j'prends un petit gros gafras. J'me débarrasse de mes affaires et j'me fonds dans la masse. Le soleil me caresse et tous mes soucis s'effacent.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je t'aime beaucoup.
Ah.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Beaucoup.
Petit.
Ah, mon petit Cap-Vert,
je t'aime beaucoup.
Nous voyons le Cap-Vert, c'est ma terre. Dès que j'y suis, je me sens bien. La tête dans les nuages, les pieds dans l'eau, je me soucie de rien. Petit bled au grand cœur, ta pauvreté fait ta richesse. On y sème la joie et on y récolte l'allégresse. Viens faire un tour sur mon île, goûter au plaisir de la vie. Prendre un bain de mer à Tarapal ou à Santa Maria. Prends une yasse et t'entendras les derniers bons sons du pays. Bois un gros mange un catioup et déguste d'un bon poisson frit. Le bruit, l'odeur du séché nous font partie du décor. Avec un mélange de couleurs en symbiose et accord. Les gens se contentent de peu pour vivre bien et être heureux. Petit pays solidaire et chaleureux.
Césaria Evora sur France Inter, Petites Îles. On retrouve tout de suite Daniel Mermet en direct de la Fête de l'Huma. Nous avons rétabli le contact avec la Courneuve.
Merci. Alors, on a cru que c'était une grève de l'EDF. C'est pas ça. On a cru que c'était Arena qui avait coupé l'antenne. C'est pas ça non plus. C'est pas non plus Benoît XVI. C'est un incident. On reprend donc là-bas, si j'y suis, en direct. Depuis la Fête de l'Humanité qui commence ce soir à 19h et on retrouve nos amis ouvrières d'Arena qui nous racontaient comment cette longue lutte qui a été la vôtre, à la fois comme toutes ces luttes-là, en vous écoutant, on pense tout à fait évidemment aux images du Front Populaire du juin 36, mais on voit qu'il y a beaucoup d'histoires semblables, sauf que la vôtre finit bien. Alors je vais demander à votre avocat Philippe Lejar, comment ça s'est passé? Comment avez-vous gagné? Alors quand je dis avez-vous gagné, c'est tous ensemble. Ouais. Quoi. C'est pas l'avocat seulement.
C'est plutôt elles qui ont gagné. Oui. Bon, en fait, ça s'est passé en deux étapes. Il y a eu une première bagarre qui est celle qui vient de vous être racontée, parce qu'il faut expliquer qu'Arena offrait royalement 5 000 € à chaque salarié dans le cadre du licenciement économique, en plus des indemnités légales de préavis et d'indemnités de licenciement. Donc la première partie de la bagarre a consisté pour elle à essayer d'augmenter un petit peu ce qu'on appelle pudiquement l'indemnité supraconventionnelle et vulgairement le chèque-valise. Donc ça a été gagné en partie, puisque finalement l'entreprise a accepté de verser 17 000 € à chaque salarié, plus 400 € par année d'ancienneté au-delà de 5 ans. Et les licenciements étaient prononcés. Et la deuxième partie de la bagarre a été de dire, mais il n'y a aucune raison finalement qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ait été présenté dans cette entreprise, puisque l'entreprise faisait des bénéfices, et que le surgain qu'elle allait avoir en délocalisant en Chine n'allait servir qu'à une seule chose, à augmenter les dividendes des actionnaires. Et on a décidé de saisir le tribunal tous ensemble en disant, mais il est quand même anormal qu'on prive, qu'on fiche en l'air la vie de 161 personnes simplement effectivement pour augmenter les dividendes d'une boîte.
Mais vous n'avez fait qu'appliquer le code du travail finalement, voilà, alors, tout simplement.
On a rien inventé, hein. Ça existe déjà, on n'est pas les premiers, j'espère qu'on sera pas les derniers non plus d'ailleurs. Et la Cour de cassation, c'est la plus haute juridiction française, dit que pour mettre en place un plan social, on peut avoir que trois raisons. Soit on a des difficultés économiques, on perd de l'argent. Soit on a une mutation technologique, c'est-à-dire bon ben, tout le monde sait que le métier d'imprimeur de il y a 30 ans n'est pas le métier d'imprimeur d'aujourd'hui, ou alors il y a besoin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. C'est ce qu'invoquait Arreda en disant par rapport à Nike, par rapport à Speedo, j'ai besoin effectivement d'augmenter ma compétitivité. Ce qui est parfaitement admis à la condition que ce qu'on gagne en augmentant la productivité, ça soit réinvesti dans l'entreprise. Or, la Cour de cassation a toujours dit, mais améliorer le résultat net n'est pas une sauvegarde de la compétitivité, et surtout améliorer le résultat net sans réinvestir dans l'entreprise n'est pas un motif de licenciement économique. Et c'est tout simplement ce qu'a rappelé le conseil de prud'homme de Libourne. Hein. Il n'a pas fait œuvre originale, il a simplement appliqué des règles qui existent d'ores et déjà.
Alors, pour l'instant, mais Arena fait appel.
Alors, Arena, d'après ce que j'ai lu dans la presse, parce que j'en suis pas informé, Arena a fait appel, oui.
Ça veut dire que ça peut être, les sous arriveront quand? C'est ce qu'on veut savoir.
Non, on peut avoir, on peut avoir ce qu'on appelle des fixations prioritaires à la Cour d'appel, ce que nous allons demander si effectivement il y a eu un appel, qui nous laisse peut-être espérer qu'on passera à la Cour d'appel avant Noël 2008.
D'accord. Bon, bravo, merci. Est-ce qu'il y a des précédents à cette histoire-là? Et est-ce que ça peut faire exemple?
Si on a beaucoup parlé de cette affaire, c'est qu'on avait calculé le préjudice de chaque salarié d'une manière un peu originale. Normalement, quand on gagne un procès, on le gagne en fonction à un multiple du mois de salaire qu'on a. Nous, on n'avait pas fait comme ça. On avait dit, écoutez, d'après notre expert comptable du comité d'entreprise, vous allez gagner 8 millions d'euros de résultats nets supplémentaires en délocalisant en Chine. Vous licenciez 161 personnes, sur un an, ça fait 50 000 euros par personne. Voilà comment on avait fait le calcul, et c'est ce qui a été reconnu par le tribunal.
Merci. Alors on va avancer. Là, on va aller sur une autre histoire qui n'est pas celle-là aussi gaie. C'est l'histoire Fabien Gage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué de la CGT.
Oui.
Et là, il y a quand même pas mal de salariés de chez Renault dont les emplois sont menacés. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, parce qu'on a perdu du temps avec cette interruption, cette panne, nous résumer un peu l'affaire?
Bah, globalement, c'est 6000 emplois directs.
Ah, 6000, je crois que c'était 4000.
C'est 6000, hein. C'est près de 5000 emplois en France. Donc Renault Maison Mère, auquel il faut associer à peu près 1000 emplois dans les filiales Renault en France, et 1000 autres en Europe occidentale qui vont être supprimés en tous les cas dans le plan qui nous a été présenté. Alors l'argument est un peu identique à l'affaire de tout à l'heure, hein, c'est qu'on nous dit manque de compétitivité, bref. Alors ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui les salariés commencent à comprendre qu'il y a quand même un gros malaise, puisque le 24 juillet dernier, Carlos Ghosn annonce d'abord des bénéfices.
Carlos Ghosn qui est
le PDG de Renault, qui annonce des bénéfices importants puisqu'ils sont encore supérieurs à ceux du premier semestre 2007, qui annonce des objectifs de profitabilité, comme il dit, très très importants, et qui, dans le même communiqué, annonce les suppressions d'emplois.
Alors ?
Eh bien, alors, ça crée chez les salariés non plus de l'interrogation aujourd'hui, mais se dire que, effectivement, la finalité d'un constructeur comme Renault est devenue aujourd'hui axée exclusivement sur le niveau de marge promis aux actionnaires pour 2009 et qui, à structure de capital identique, s'élèverait à peu près à 1300 millions de dividendes.
Vous avez fait des appels à la grève, ça a marché ?
Écoutez, hier, on peut considérer qu'il y avait à peu près entre 2500 et 3000 salariés à peu près qui se sont mobilisés. Ce matin, nous avions une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales, enfin des syndicats CGT, pardon, hein, de Renault Maison Mère. Et nous appellerons à nouveau à l'action le 25 septembre prochain, puisque se tiendra un comité de groupe où les 2000 emplois supplémentaires seront, suppressions d'emplois supplémentaires seront annoncées. Et donc, on considère avec le tour de table qu'on a pu faire ce matin, c'est que aujourd'hui, oui, y compris chez les cadres, hein, aujourd'hui, beaucoup considèrent qu'il faut sans doute, c'est même à l'évidence, changer de stratégie et revenir vers normalement la finalité d'un constructeur comme Renault, c'est-à-dire fabriquer des véhicules, les vendre, et dans la mesure où ils puissent répondre aux capacités de pouvoir d'achat des populations, et y compris d'ailleurs répondre aux enjeux écologiques du moment.
Ok, merci Fabien Gache. On suit l'affaire, cette affaire Renault. Je me tourne maintenant vers un sujet qu'on a abordé. Merci. À plusieurs reprises dans nos cours de nos reportages et des émissions de la Bastille Suisse, c'est bon l'antenne là, oui. C'est l'histoire des salariés sans papiers. Ça, on peut dire que ça a surgi, alors que c'est une vieille histoire. Ça a surgi au mois d'avril dernier. Tout d'un coup, on a vu un certain nombre de salariés sans papiers se mettre en grève, faire des piquets de grève, manifester et sortir de la clandestinité au risque de ce qu'on sait, c'est-à-dire au risque de la reconduite. Alors, Raymond Chauveau, vous êtes un peu l'instigateur de cette histoire, c'est vers vous que se sont en tous les cas dirigés les journalistes à cette époque-là. Est-ce que avec nos camarades qui sont là, il y a Dakabi Karamoka, c'est vous? Oui, bonjour. Nous faire un peu le bilan de la situation au bout donc de 4 mois de lutte.
Bien, écoutez, on va entamer notre cinquième mois de lutte des travailleurs sans papier pour leur régularisation. La lutte continue. Nous avons encore à l'heure actuelle 25 piquets de grève sur la région parisienne. Et ça, c'est un scoop. Nous allons en avoir d'autres dans quelques temps. C'est-à-dire que le mouvement pour la régularisation des travailleurs sans papier n'est pas terminé. C'est une question, comme on dit, qui est posée et c'est une question qui est à résoudre. Aujourd'hui, en l'état, nous avons eu à peu près 1600 travailleurs qui...
Combien ?
1600 travailleurs qui, collectivement, se sont arrêtés de travailler et ont fait grève et ont occupé leur entreprise. Mmh. 1600. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 900 camarades qui sont en passe d'être régularisés, qui ont leur titre de séjour prêt et pour certains qui ont leur carte d'un an. Le camarade ici, d'une entreprise de nettoyage, STEM, est convoqué mercredi avec 9 autres de ses camarades. Donc, et quand même, un élément qu'on n'a pas trop donné, mais qui montre l'importance, la solidarité autour de ce mouvement, nous estimons aujourd'hui que nous avons pu récolter pour aider les camarades à faire grève pendant 4 mois et plus, nous avons récolté autour de 150 000 euros de solidarité. Mmh. Ce qui est absolument exceptionnel dans le cas d'un tel mouvement. Il faut dire que les camarades sont en grève depuis le 15 avril pour certains. Certains sont en grève depuis le 20 mai et ils n'ont toujours pas encore leur régularisation. Voilà globalement un peu les choses.
C'est un appel à la solidarité, ça. Un appel au soutien.
Nous avons un stand par l'intermédiaire de l'Union départementale 75 CGT qui se trouve avenue Marcel Cachin, B6, j'ai tout appris par cœur. Et nous allons vendre des t-shirts avec l'image qui a été réalisée exprès par Tardy. T-shirts qui sont à 10 euros. Nous comptons sur tous les participants à la fête pour venir apporter leur obol, leur contribution, pour nous permettre de tenir dans la grève, parce que nous n'avons pas fini.
Ok, merci Raymond Chauveau, Dakabi Karamoka. Vous avez quelque chose à dire, à ajouter? Merci, bravo pour cette lutte.
Oui, bonjour. Je fais partie d'une société de nettoyage qui s'appelle EFI Service. Donc, je ne saurais commencer sans remercier d'abord la CGT et l'association Droit Devant et l'ensemble de nos soutiens qui nous ont vraiment aidés dans la lutte que nous avons menée à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Donc, le mouvement est parti le 30. En ce qui nous concerne, nous avons lancé la grève le 30 juin. Mais je dois rappeler qu'avant le 30 juin, déjà, on était coincés. On était coincés dans la société. Puisqu'on avait lancé, on avait demandé au patron, j'avais personnellement demandé au patron de nous régulariser par le biais d'une lettre que je lui avais adressée. La lettre a été refusée. Donc la direction ne voulait pas nous régulariser. Donc ça, évidemment, c'est inacceptable pour nous. Donc nous avons préparé la grève avec nos camarades le 30 juin, nous sommes partis en grève. Donc, quand on est parti en grève, le premier jour, d'abord, nous étions 14 à préparer la grève, le premier jour. Donc, en fonction de ça, on a préparé un protocole d'accord. Avec le patron. Mais ce protocole d'accord a été rejeté par la direction, qui dit qu'il ne nous reconnaît pas. En fait, grosso modo, il ne nous reconnaît pas. Le travail qu'on a fait jusque-là, il ne nous reconnaît pas. Donc, il n'est pas prêt pour nous à nous régulariser. Donc, on a continué la lutte. Au deuxième jour, on est passé de 14 à 19. Donc, de jour en jour, ça s'agrandit, le nombre augmente. Le troisième jour, on est devenu 30, ainsi de suite, jusqu'au cinquième jour où le patron a accepté de signer le protocole d'accord. La liste est arrêtée à 43.
Bon, une victoire donc.
43
grévistes. Victoire d'étape. C'est une victoire d'étape.
C'est une victoire d'étape.
Mais le combat continue.
Le combat continue. 39 récépissés avec autorisation de travail, 300 autorisations de travail que nous soutenons, et un qui a été refusé pour d'autres raisons encore.
Ok, merci, je suis désolé, mais on va être obligé de faire court. J'évoque rapidement l'occupation depuis le 2 mai de la Bourse du Travail rue Charlot par le CSP 75, la coordination des sans-papiers. Nous y reviendrons dans de prochaines émissions de là-bas si j'y suis, par un reportage que nous ferons là-bas. Merci à tous les trois. Je me tourne maintenant vers Choukri. Choukri, c'est le porte-parole. Bonjour, Choukri.
Bonjour
tout le monde. Du Forum social des quartiers. Ça, c'est quelque chose de très important qui se passera les dates
3, 4 et 5 octobre
à Nanterre, à la cité Pablo Picasso. C'est la deuxième édition de ce Forum social des quartiers. Et là, vous allez aborder un certain nombre de sujets cruciaux qui reviennent tout le temps dès qu'il s'agit des banlieues, entre guillemets, voilà. Des banlieues sensibles. On sait d'ailleurs, le mot est toujours un petit peu gêné avec ce mot, on ne sait pas comment le dire. Et là, vous avez envie de traiter, enfin d'évoquer, à travers toute une série d'ateliers, un certain nombre de sujets, les rapports entre les banlieues et les médias, la discrimination au travail, l'éducation en faillite, 15% des élèves en situation d'échec scolaire dans ces quartiers, les violences policières, c'est un grand sujet, la rénovation urbaine, les solidarités internationales et la question des femmes dans les quartiers populaires, c'est quelques-uns des thèmes qui seront abordés. Choukri, il n'y a que moi qui parle, parlez un peu.
Bien, le Forum social des quartiers populaires, il a pour vocation de réunir les gens, les acteurs sociaux dans les quartiers autour d'une table et en fonction des différentes thématiques, que ce soit la banlieue ou les médias, la police, la justice, la discrimination à l'embauche, eh bien essayer de chercher des pistes de réflexion, de faire un bilan de ce qui a été fait dans les différents quartiers, un bilan des luttes. Et le but, c'est d'archiver, de former et d'essayer, si on veut, de faire porter la parole de ces gens de quartier qui sont mal représentés pour moi. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on a une ère où c'est Fadela Amara, Ramayad. Bon, alors dans les quartiers, on peut vite fait tomber dans l'illusion, à se dire que nous sommes représentés, nous sommes issus de l'immigration, la société française change. Mais attention, c'est la droite qui est au pouvoir et c'est plus de la com qu'autre chose. Il faut aller dans le fond du problème. Il y a des sans-papiers qui travaillent. Près de 400 000 en France, 80% de ces sans-papiers travaillent. Donc quand on fait jouer l'insécurité sur ça, c'est que de la communication. Quand on dit que il y a pas longtemps encore sur M6, il y a une émission qui stigmatise les banlieues comme la plupart des émissions, on voit très peu d'émissions.
Sauf là-bas, si j'y suis.
Oui. Enfin bon, la plupart du temps, bon, c'est quand on parle des quartiers, c'est assez péjoratif. Et nous, on aimerait dire simplement que dans ces quartiers, il y a des gens qui se mobilisent, qu'il y a des luttes, qu'il y a une histoire, et qu'on essaye de, si vous voulez, de mettre tout ça en valeur, plutôt que ce qu'on nous met sous les yeux au journal de 20h.
Vous avez envie d'attaquer des sujets assez sérieux. Je vois qu'il y aura il y a Gaël, par exemple, du comité des Roms de Bagnolet. Il y a des tas de sujets. Vous essayez d'aller au cœur du problème, quoi. Pas tourner autour avec des belles formules.
Ben, en fait, le côté pratique, c'est que on a des gens très concernés, des gens qui sont dans des, par exemple, les comités anti-démolition. Là, il suffit de venir, de faire venir ces gens-là qui travaillent sur ces dossiers et sur le terrain, comme à Poissy, comme aux Ulysses, comme dans les villes de France où l'ANRU a fait un ravage, c'est-à-dire que les loyers augmentent et que les gens partent plus loin de la région parisienne. Eh ben, ces gens-là connaissent le terrain, connaissent donc la situation et peuvent s'exprimer. Et le but, c'est de les mettre autour d'une table, certes, pour qu'il y ait des pistes de réflexion, mais en plus de ça, c'est que comme la tente est ouverte, comme ici même, on est autour d'une table et il y a des gens qui écoutent, ces mêmes gens participent, ceux qui ne savent pas, apportent leurs idées et puis apprennent surtout. Parce que ce qui manque en France, ce qui manque dans les quartiers, c'est de l'information. Parce qu'on nous fait de la communication.
De l'information ou de la formation ?
Non, on nous fait de la communication, on ne nous fait pas de l'information. C'est ça la nuance.
Mmh. Ok, donc vous pouvez les rejoindre très facilement sur Internet. Le site, c'est http://fsqp.free.fr. Et puis nous, on va suivre cette histoire-là et on vous soutient, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour ces 3, 4 et 5 octobre, Forum social des quartiers populaires à Nanterre, dans la cité Pablo Picasso.
En face de la cité Pablo Picasso, c'est sur le stade Jean Guimier, parc Malraux, Nanterre la populaire.
Ouais, je pense que Picasso serait content s'il était.
Voilà.
Merci. Marcel,
merci à vous.
Allons-y. Hop là.
Qui a mis le feu chez les pingouins ?
Je suis scandalisé, nous dit le chef d'État, au dernier sommet sur ce sujet. Mes déclarations ont fait sensation.
Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant.
Faut pas non plus faire peur aux investisseurs. Le réchauffement doit pas empêcher la croissance.
Qui a fait déborder les océans ?
Me montrez pas du doigt ce plan industriel. Je me plie déjà aux réglementations. Beaucoup de pays sont moins tatillons.
Réjouis les gaz à effet de serre. Je vous jure d'y réfléchir. Mais mon résultat ne doit pas en partir.
Pas de planète sans casser de CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, on fait
pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Qui fait la danse des pluies torrentielles? J'aimerais en parler, nous dit le journaliste.
Mais comment critiquer ce qui nous fait croûter? N'oubliez pas que la télé vit de la publicité.
Qui a scalpé le Kilimanjaro?
Vous êtes gonflé, dit la vache à lait. J'avoue, je fais des proutes. Oui, je fais des proutes. Dois-je vous rappeler qui m'a domestiqué?
Elle m'est enfermée dans des boxes en béton. On m'assémine, on me garde de farine. Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi, on fait
pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Qui a encore monté le chauffage?
Soyez raisonnable, dit le scientifique.
Mon boulot c'est de chercher, pas de contrôler comment mes travaux seront utilisés.
Et qui a fait un trou dans l'ozone?
Je suis pas décideur, appelle citoyen.
Vous nous invitez à consommer différemment,
mais faudrait encore en avoir des moyens.
J'ai pas fait des économies, un crédit pour ma nouvelle voiture, pour la laisser au garage, et m'entasser dans les transports en commun.
On nous fait préférer les produits emballés, l'hygiénique esthétique carrément épatant. Paradoxalement, nous devenons coupables, irresponsables par nos choix polluants. Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi, on fait
pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Merci, 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 merci. Marcel et son orchestre qui se sont ce soir à partir de 21h30 sur la scène Zébrock, ici même à la fête de l'humanité qui commence tout à l'heure à 19h, ce vendredi à 19h. Et on attend 400 à 500 000 personnes qui passeront au cours de ces 3 jours et peut-être passeront-ils devant le stand de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix. Richard Wagman, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est l'Union juive française pour la paix? Il y a peut-être encore quelques auditeurs cachés au loin qui l'ignorent. Et puis, ce que vous faites là et quels seront les sujets que vous aborderez au cours de ce week-end de la fête de l'UMA?
Bien sûr, l'Union juive française pour la paix, c'est une association qui milite pour une paix juste au Proche-Orient entre Israéliens et Palestiniens, et en même temps qui fait le travail antiraciste ici en France avec beaucoup de partenaires associatifs dans la lutte contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie et toute autre forme de discrimination.
Et ce week-end, qu'est-ce que vous proposez? Les débats, les sujets, les...
Donc nous animons à la Fête de l'Humanité un stand qui s'appelle Bienvenue à la Palestine en collaboration avec l'association France-Palestine Solidarité et les missions civiles qui envoient des volontaires là-bas, c'est-à-dire la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien. Alors au cours du week-end à la Fête de l'UMA, on a un débat centré sur la question d'une intervention artistique et culturelle pour la Palestine. L'Union juive française pour la paix anime un débat demain après-midi sur le thème des réfugiés palestiniens intitulé « Impossible retour ». Point d'interrogation. Ensuite, il y aura l'intervention de Madame Amouri, la mère de Salah Amouri, cette prisonnier politique franco-palestinien qui purge une peine maintenant dans une prison île de Jérusalem, suivi par un débat sur animé par l'AFPS et Génération Palestine, intitulé « Résistance populaire non violente contre le mur ». Bien sûr, le mur de séparation en Cisjordanie.
Ok, merci beaucoup Richard. Je me tourne maintenant vers, pour finir, cette heure, on pourrait continuer comme ça toute la journée. Il y a des tas de thèmes de débats, d'idées, tout au long de la fête de l'UMA. Puis il y a évidemment les merguez quand même, il n'y a pas que ça hein, dans la vie. Et Fernand Tuile, vous êtes, ça suit un petit peu, hein, c'est les mêmes préoccupations. Vous occupez du rapprochement entre des villes françaises et des camps de réfugiés palestiniens à travers le monde.
Oui, alors d'abord... c'est des choses qui ne se savent pas beaucoup. Il y a 59 camps de réfugiés en ce moment dans le monde. Il y en a en Syrie, en Jordanie, il y en a au Liban, et bien évidemment en Palestine, et en particulier, il y en a aussi à Gaza, qui est en train de souffrir. Et le but de notre association franco-palestinienne, avec Ahmed Muhaysen, qui vit dans un camp de réfugiés, c'est simplement de jumeler des villes françaises, il y en a plus de 50, avec des camps de réfugiés palestiniens. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour simplement qu'on puisse tisser des liens entre les citoyens français et les Palestiniens qui vivent dans les camps, pour qu'ils puissent donner la véritable image de ce que c'est un Palestinien qui vit dans un camp de réfugiés. Il y a 1 500 000 de réfugiés qui vivent dans les camps. Et en plus, ce qu'on a décidé pour cette fête de l'humanité, c'est d'inviter des réfugiés palestiniens qui vivent dans des camps. On en a invité 18. Qui viennent de ces camps du Liban, de Syrie, de Jordanie. Et vous pouvez les rencontrer, au village du monde. Ils seront là pour discuter avec vous et véritablement vous donner Fernand. Un peu ce qu'ils vivent.
Alors Fernand, voilà Hamid Bouazen qui est l'un de ces réfugiés. On va quelques mots seulement, Ahmed, parce que on arrive à 15h58. Vous venez d'où exactement?
I am coming from Heshekam. It's next to Beit Lahem.
Je viens d'un village qui est juste à côté de Beit Lahem, Heshekam.
Comment vous vivez? Vous pouvez nous donner une idée de la façon dont on vit dans votre...
Our life, first of all, we're still living under occupation and you can imagine how to live under
military occupation. Alors, notre vie est très difficile, vous pouvez imaginer... c'est l'occupation. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Il y a plus de 5 millions de Palestiniens en exil. Il y en a beaucoup qui vivent dans des camps de réfugiés à l'étranger. Il n'y a pas de progrès dans le processus de paix. Notre situation est pire que jamais. Pas de travail.
Il y avait
une centaine de milliers de Palestiniens qui travaillaient en Israël, maintenant ils ne peuvent plus.
Gaza est sous siège.
Merci. Voilà le tableau.
Merci Ahmed, ça me fait penser qu'il y a Isabelle Limoussin, Benjamin Perru, Sébastien Huel, Citoyenne Guyenne et Raphaël Moutière qui ont réalisé cette émission à Steve Charles Perry. Agnès Lebot s'occupe du répondeur et c'est Antoine Chao et Renaud Lambert qui ont préparé cette émission. Réclame, s'il vous plaît.